On est de retour sur la radio des ours, 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Et on accueille tout de suite André Larivière. Bonjour André, comment ça va ?
Bonjour, tout va.
Tout va, c'est nickel. Alors vous êtes militant écologiste depuis le début des années 1970.
Ce qui ne me rajeunit pas.
Ce qui ne vous rajeunit pas, mais vous avez l'air toujours très jeune. En tout cas, vous êtes notamment un militant anti-nucléaire. Vous avez vécu 15 ans avec votre famille sans électricité, sans téléphone, sans eau courante. Et vous avez expérimenté aussi beaucoup de modes de lutte non violente à travers votre vie. Pardon. Et vous êtes à Valorcine pour participer du coup à la Nuit des Ours avec un atelier samedi de 14h30 à 16h30. Autour de la désobéissance civile à l'épreuve de la réalité. Mmh. Et vous êtes aussi guide ce samedi 13 août à la Nuit des Ours autour des militances viscérales, si je ne me trompe pas. Alors, pour commencer, André, est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement, comment il s'est construit et voilà des différents moyens de lutte non violente que vous avez expérimentés.
Oui, c'est me demander un parcours de vie en 1 minute et 10 secondes, ça va être difficile, mais si je commence par le début, d'abord j'étais dans l'écologie radicale appliquée, justement cette période-là où, en forêt canadienne, sans électricité, sans eau courante, avec vaches laitières familiales, les jardins, etc. Puis après la fin des années 70, c'est tourné plus à l'écologie politique. J'ai commencé avec quelques grands jeunes, un grand jeune de 40 jours aux États-Unis, à San Francisco, un cri d'alarme sur la course aux armements. Après, je suis venu en Europe, puis là, je me suis impliqué non-stop dans un réseau militant et l'autre pour diverses actions écolo-pacifistes, par des marches, des camps pour la paix, des actions de désobéissance civile, etc. Résumé au maximum, ça donnerait ça.
D'accord, bah en tout cas, vous êtes bien arrivé à le résumer en peu de temps. Et pour parler du moyen de lutte que vous avez toujours plébiscité, ça a toujours été des moyens de lutte non violents.
Oui, on peut dire que par exemple, comme dans l'anti-nucléaire français, où ça tient spécialement de la constipation chronique du cerveau pour les gouvernants, on a essayé toutes les couleurs de l'action, hormis la violence. Ça pouvait être l'humour noir, la créativité artistique, etc., etc. Et ça continue. Là, j'arrive d'un festival anti-nucléaire qui vient de se terminer à Bure, dans la Meuse, où on veut enfouir 500 mètres sous terre les pires déchets radioactifs de la France.
Justement, à Bure, oui, et vous résidez désormais en France.
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de la situation en France avec le nucléaire, avec le président Macron qui a notamment déclaré il y a un mois que c'était une solution durable en France et en Europe?
Oui, ben si c'était pas si grave, on pourrait dire que ça a l'air d'une blague, parce qu'on a affaire à un spécimen, l'EPR, qui accumule déjà, je crois, 5 fois de surcoût et 3-4 fois de retard en temps pour arriver à le démarrer. Bref, on est face à un truc qui ne fonctionne pas, puis on en promet 14 autres de ce merveilleux modèle qui ne fonctionne pas. C'est difficile d'être plus irrationnel, parce qu'en France, c'est une monomaniaquerie, le nucléaire. Il faut savoir que c'est un des seuls pays maintenant, avec quelques grandes dictatures comme la Russie et la Chine, où c'est encore comme ça.
Et du coup, je le disais, vous êtes attaché à cette notion de non-violence, de pacifisme. Et voilà, il y a des débats au sein des milieux militants, notamment pour des modes d'action, on va dire, un peu plus directs.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette conjugaison des...
Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Par exemple, il faut remarquer que Plogoff, qui était un des rares succès contre le nucléaire en France, c'était sur la limite de la non-violence, c'était, on pourrait dire, de la petite violence symbolique, dans le sens que même le maire de Plogoff, avec son écharpe bleu-blanc-rouge, portait un lance-pierre au cou. C'était le symbole de leur lutte. Mais il faut remarquer à la fois que s'il n'y avait pas eu toute la Bretagne pour les rejoindre, pour remplir les champs des kilomètres alentour, ça n'aurait pas changé la donne, parce que pour ce qui est de la violence, un État tient toujours le gros bout du bâton. Ceci dit, par exemple, pour moi personnellement, saboter des trucs d'État ou de grosses compagnies qui soutiennent les pires choix de l'État, comme l'Andra pour enfouir les déchets, de faire un trou dans une clôture pour entrer, pour moi, c'est du mini-sabotage que je qualifierais pratiquement encore de non-violence vu l'ampleur des enjeux.
Et c'est ça justement qu'ont fait certains philosophes libertaires comme Peter Gelderlos, c'est de réinterroger sur cette notion de, de violence, justement, quand on voit comment sont présentées, je ne sais pas, des manifestations dans les médias, etc., c'est de réinterroger notre notion de violence par rapport à cette violence d'État, par rapport à cette violence, finalement, du capital aussi.
Oui, encore une fois, moi je ne me considère pas comme un révolutionnaire marxiste non plus, mais je crois qu'il y a des limites de la non-violence qui valent la peine d'être étudiées, vérifiées, tentées, et parce que sinon on tombe dans une sorte d'angélisme. C'est aussi le risque de dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, ils vont finir par comprendre. Mais non, il y a tellement de lourds intérêts en jeu que si certains groupes ne sont pas contraints de changer, mais encore une fois je répète que c'est le nombre qui peut faire la différence, et même, et non pas quelques éclats de petite violence, ça ne changera rien ça non plus. Ce sont des sujets sur lesquels on veut se pencher lors de l'atelier du 13 après-midi, justement.
On aura l'occasion d'en revenir sur cet atelier, mais juste après un court moment musical. Mais je voulais aussi vous interroger sur... vous dites que le jardin peut être un espace de résistance aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça peut être un espace de résistance
Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais par exemple, ne serait-ce que parce qu'en apprenant à produire ces semences, on est à la base de l'alimentation, la vraie base de l'alimentation. On dit que c'est tellement important de produire ces semences, c'est comme si on avait la planche à billets à la maison pour faire produire son propre argent. Parce qu'il faut bien savoir que les multinationales, c'est poussant vers les hybrides. C'est pas seulement pour t'obliger à racheter tous les jours, mais c'est aussi pour te faire perdre le savoir-faire de la reproduction des semences, puis ils y sont déjà en grande partie arrivés. Fait que nous, on travaille beaucoup actuellement dans une association à apprendre à d'autres comment reproduire ces semences. Sinon, bien évidemment, il y a comment on jardine. Un peu comme l'agriculture bio s'est imposée malgré les gouvernements, surtout en France, comme souvent. Ça avance, et chez soi, même dans son petit potager, il est très important de faire des choix cohérents, même si on se complique un peu plus la vie, même s'il faut essayer 20 fois pour rattraper les mêmes campagnols, etc., mais d'éviter la chimie au maximum sous toutes ses formes. Puis ainsi, au moins, on sait ce qu'on consomme, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans l'aliment. Sans compter la petite phrase de Lanza del Vasto qui disait « La santé, c'est le plus court chemin de la terre à la bouche. » Fait que, par exemple, moi, souvent, quand il y a des visiteurs, je leur fais remarquer que cette salade-là, elle gigotait encore voilà une demi-heure au jardin. Hein. Et c'est une garantie de grande qualité de vie, tout ça.
Vous êtes sur la radio des ours 90.7 FM. On reste avec André Larivière. On marque juste une petite pause musicale avec Underwater Love de Smoke City.
This must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. It's so deep, so beautiful and liquid. Esse amor com paixão. Ai. Esse amor com paixão. Ai, que coisa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. This must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que é esse amor da água? Eu sei que eu não quero mais nada. Follow me now.
first saw you, I was deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun, after the sun comes rain again. After the rain comes sun, and after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai, e tudo cai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh.
Nous sommes toujours en direct de la cascade de Bérard sur la radio des ours sur le 90.7. Au micro de Justin aujourd'hui, André Larivière, militant écologiste. Je vous laisse la parole.
Et oui, on est toujours avec André Larivière. Du coup, comme tu le disais, Marine, militant écologiste depuis les années 70. André, toi, tu as pu voir, tu as pu expérimenter différents moyens de lutte. Et justement, on le disait, parfois, il y a des contradictions même au sein de ces mouvements entre des gens qui ont des sensibilités, des affinités différentes avec les moyens de lutte. Et tu avais notamment un exemple, puisque je le disais, toi, tu as expérimenté énormément de luttes, tu en as vu énormément évoluer, etc.
Oui, l'exemple dont je voulais parler, c'est Gorleben, au centre-nord de l'Allemagne. Où c'est l'équivalent de Bure qui voulait installer là, c'est-à-dire un centre de stockage pour l'ensemble des déchets radioactifs allemands. Et les Allemands ont un mode de fonctionnement très persévérant. Ils sont un peu comme un chien qui attrape un os, ils vont le gruger jusqu'à la moelle, ils n'arrêteront pas pendant des décennies. Ils appelaient ça la cinquième saison. Quand les déchets radioactifs arrivaient, il y avait 30 000 manifestants qui les attendaient. Et presque autant de policiers. Puis il y avait un camp principal au-dessus de l'entrée, c'était écrit en gros « Nur Gewaltfreiheit », c'est-à-dire seulement non-violence. Mais à la fois, vu que les Allemands sont d'une sensibilité antinucléaire à fleur de peau dans toute la population. Tu as les grands-mères qui viennent bloquer en tricotant, en s'asseyant au milieu de la route, un orchestre de chambre qui sort avec son violoncelle. Tu as les motards, j'ai déjà vu des blocages de juges en Allemagne ou d'artistes réputés. C'est une autre sensibilité qu'en France. Et donc, vu qu'ils essaient de respecter un peu toutes les manières de se battre, ben, en dehors du principal camp qui était non violent, il y avait d'autres camps plus petits alentour dont certains se permettaient une certaine violence. Mais ils se tenaient séparés du grand camp de non violence et chacun trouvait sa manière de faire et sa place. Et par exemple, j'ai vu des agriculteurs qui carrément sabotaient la route, la creusaient par-dessous pour qu'elle s'effondre avant l'arrivée des déchets, des convois de déchets radioactifs. Ça aussi, c'est une forme de sabotage pour l'état civil. Mais encore une fois, vu la gravité des enjeux, c'est des choses qui peuvent être compréhensibles dans ces contextes-là.
Et finalement, justement, pour ces luttes, l'important, c'est pas justement qu'il y ait une acceptation de la part des différentes sensibilités pour que ces luttes convergent vers le même objectif. Parce que voilà, il y a aussi des auteurs, je parlais de Peter Gelderlos, qui dénoncent le fait que parfois la tendance non violente vient même à réprimer les militants, on va dire, plus directs.
Oui, ça dépend comment ça se passe dans l'action. Si, par exemple, des plus violents profitent d'une majorité non violente pour passer au travers et commettre leurs actes, c'est plus discutable. Mais s'ils procèdent par eux-mêmes et en assument les conséquences, ben, c'est leur choix. Un point, c'est tout.
André, on va parler de ta présence ici à la Nuit des Ours, notamment de l'atelier et de la soirée du samedi. Mais pour commencer, à l'atelier du samedi 13 août, de 14h30 à 16h30, est-ce que tu peux nous parler du contenu et donner envie aux gens de venir à cet atelier?
Ben, comme je te disais auparavant, finalement, ça va être une intro un peu consistante. Mais ce n'est pas un cours magistral non plus, c'est pour ouvrir le thème et se permettre des échanges, des partages de certains vécus, un peu comme tu le faisais maintenant, tout récemment. Et donc j'ai une petite structure préparée en ce sens-là, avec des exemples très concrets de désobéissance civile, qui, il faut bien le voir, qui même quand non violents, peuvent coûter très cher. Je donne un exemple, c'était lors d'un transport de déchets, de par train d'un convoi de déchets radioactifs aux États-Unis, puis c'était une campagne pour les arrêter, puis ils s'essayaient sur la voie ferrée. Il y a d'ailleurs un jeune qui est mort dans le nord-est de la France comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est un homme de 60 ans qui était assis sur la voie ferrée, s'est fait couper les jambes. Le train n'a pas arrêté. Quelques mois plus tard, il était encore sur la voie ferrée en chaise roulante. Cette fois-là, le conducteur de train a daigné arrêter. Faut savoir que ça peut être lourd aussi comme conséquence, ou pas, sans que ce soit aussi tragique. Par exemple, il y a une jeune femme aux États-Unis, en Oregon, ou je me rappelle plus, un des États de la côte ouest, qui a occupé un séquoia pendant 2 ans pour ne pas qu'il soit abattu. C'est un engagement de vie rendu là.
Donc du coup, l'atelier sera plus axé sur des échanges de vécu en termes de lutte, etc. Et pour la soirée de samedi soir, du coup, pour rappel pour nos auditrices et nos auditeurs, la Nuit des Ours, elle constitue un mouvement artistique, et vous devez choisir un guide avant cette soirée pour vous emmener à travers les différentes œuvres dans la forêt. Et toi, André, tu vas faire guide autour d'une thématique, les militances viscérales. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est un peu surprenant comme concept. Ce sont les militances qui s'incarnent dans la chair. Parce que, comme disait Lanza del Vasto, qui était un sage du 20e siècle, que le 20e siècle n'a pas voulu recevoir parce qu'il disait des choses trop décalées. Par exemple, il disait, mais on prétend que la machine sauve du temps. Alors, comment expliquer que dans tous les pays où la machine domine, tout le monde court sans arrêt? Et bref, lui, il disait, au début, j'étais convaincu jusque-là. Il montrait au bas du front. Après, il dit, j'étais convaincu jusque-là. Il montrait au niveau du menton. Il dit, pour le reste, ça a été très, très long à descendre. Et donc, ce sont les militances qu'on incarne dans sa chair de multiples sortes, en sachant qu'il y a d'abord les militances qui tiennent de la patience et d'autres qui tiennent de l'urgence, du cri d'alarme, parce que c'est trop grave et urgent. Et donc, dans la patience, on commence justement par les manifs, les pétitions. Puis finalement, le déclencheur, c'est souvent un deux poids, deux mesures qui nous fait réaliser à quel point le monde est injuste de mille manières. Puis, mais après, il y a des armes intermédiaires qui sont hyper puissantes, comme le boycott, qui est sous-estimé. La seule fois qu'il a été utilisé sérieusement à travers le monde, c'était sur l'apartheid de l'Afrique du Sud. Puis ce pays-là a été mis à genoux par le boycott mondial. Mais en même temps, c'est une arme tellement puissante qu'elle effraie même les militants, parce que finalement, il faut que tu mettes en question ton affectif qui vit avec certaines contradictions, puis qui aime bien boire un petit verre de Coca-Cola, même s'il déteste le Big Brother. C'est un exemple, simplement, mais il y a beaucoup il y a du chemin à faire pour être cohérent avec le boycott. Ça commence par soi-même, souvent. Après, on passe aux militances d'urgence, incluant plusieurs formes de désobéissance civile, puis là j'en nomme quelques-unes, et aussi les grands jeunes politiques qui, dans des pays de surabondance, constituent une sorte de désobéissance civile subtile, on pourrait dire. C'est difficile de comprendre pourquoi on ne mange plus quand il y a de tout partout, quoi. Mais je rappelle que le concept de la Nuit des Ours veut qu'on développe un thème comme ça en 4 fois 5 minutes, en 4 fois 20 minutes, tout en marchant. Donc, c'est pas très léger comme thème. Je vais devoir trouver des raccourcis. Mais vu que j'ai fait déjà l'an dernier, un autre thème un peu plus léger, ben, je devrais pouvoir me débrouiller avec celui-là quand même.
Merci beaucoup André d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. Et si vous voulez prolonger cette discussion ultra passionnante, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venir samedi à l'atelier de 14h30 à 16h30. D'ailleurs, le rendez-vous sera sûrement à la Poya, si je ne me trompe pas, comme d'habitude pour les ateliers. Ou samedi soir pour la soirée de la Nuit des Ours, bien entendu. En tout cas, on continue notre émission sur le 90.7 FM avec de l'eau qui dort autour de Lucie.